De graves erreurs de gouvernement sont causées par la peur d'accomplir des changements internes radicaux, alors même que le besoin en a été clairement perçu. Darvi Odrade. Pour Odrade, le premier mélange du matin était toujours différent des autres. Son organisme réagissait comme un affamé qui se jette sur un fruit suave. Suivait alors la lente, pénétrante et douloureuse restauration de ses énergies. C'était le côté effrayant de la suétude au mélange. Elle demeurait à la fenêtre de sa cellule, attendant que l'effet se complète. La régulation du temps, à ce qu'elle pouvait constater, leur avait réservé une nouvelle aube pluvieuse. Le paysage était luisant, imprégné d'un halo romantique, tous les contours voilés réduits à des essences comme dans un très ancien souvenir. Elle ouvrit la fenêtre. Un air froid et humide lui souffla au visage, drapant des réminiscences autour d'elle comme on enfile un vêtement familier. Elle prit une profonde inspiration, les odeurs que la pluie laissait derrière elle. Elle gardait à l'esprit les souvenirs des choses essentielles de la vie, amplifiées et polies par l'eau qui ruisselait du ciel. Mais ces pluies-là étaient quelque chose de différent. Elle laissait un arrière-goût pierreux qu'elle sentait presque dans ses narines. Et elle n'aimait pas cela. Le message n'était pas purificateur, mais évoquait une vie dépitée, qui voulait que toute pluie cesse et se fige. Ces pluies-là n'apaisaient pas, ne nourrissaient pas. Elles annonçaient l'inéluctabilité du changement. Odrade referma la fenêtre. Aussitôt, ses esprits regagnèrent les odeurs familières de ses appartements privés, dominés par la saveur constante du chéré que distillaient les implants obligatoires pour toutes les personnes qui connaissaient les coordonnées spatiales de la planète du chapitre. Elle entendit Stretchy entrer, puis les frottements de la carte du désert remise à jour. Discrète et efficace dans les bruits de ses mouvements, plusieurs semaines de collaboration étroite avaient confirmé la première impression d'Odrade sur Stretchy. Dévouée et sûre, peut-être pas brillante, mais suprêmement sensible aux besoins de la mère supérieure. Il n'était que de voir le calme avec lequel elle se déplaçait. Transférer la sensibilité de Stretchy sur les besoins du jeune Teg, et elles obtiendraient la hauteur et la mobilité qui lui faisaient défaut. Un cheval? Peut-être, mais bien plus en fait. L'assimilation du mélange par Odrade atteignit son point culminant puis commença à décroître. Le reflet de Stretchy sur la vitre de la fenêtre la montrait immobile, attendant ses instructions. Elle savait que ces moments étaient absorbés par l'épice. À son stade, elle devait attendre avec impatience le jour où elle aurait à son tour accès à cet univers mystérieux. Grand bien lui fasse. La plupart des révérendes mères, suivant l'enseignement qu'elles avaient reçu, pensaient rarement à l'épice comme à une drogue astreignante. Odrade, chaque matin, voyait la réalité en face. On absorbait l'épice dans la journée selon les exigences de l'organisme, rompu à une longue pratique commencée très tôt. Les doses étaient toujours minimales, juste assez pour aiguiser le système métabolique et lui permettre de fonctionner au mieux. Les exigences biologiques s'enclenchaient plus facilement avec le mélange. Les aliments avaient meilleur goût. Sauf accident ou agression fatale, on vivait beaucoup plus longtemps qu'on ne l'aurait fait sans en prendre. Mais on devenait dépendant. Ses énergies restaurées, Odrade cligna les yeux et se concentra sur Stretchy. La curiosité sur ce long rituel du matin se lisait clairement en elle. S'adressant au reflet de Stretchy sur la vitre, Odrade demanda « Savez-vous ce que signifie être en manque de mélange ?»«
Oui, mère supérieure. »
Malgré les recommandations de mettre le plus possible en veilleuse la conscience du caractère astreignant de l'épice, c'était une préoccupation qui ne quittait pas Odrade d'une semelle, et elle en ressentait le dépit cumulé. Son conditionnement d'acolyte, fermement implanté à l'occasion de l'agonie de l'épice, avait été peu à peu érodé par la mémoire seconde et l'accumulation du temps. Cette admonition, le manque vous ôte une partie essentielle de l'existence, et s'il survient à un âge avancé, risque de vous tuer. Que signifiait-elle encore aujourd'hui ?
Le manque a pour moi une intense signification, reprit Odrade. Je fais partie de celles pour qui la prise du matin est extrêmement douloureuse. Je suis sûr qu'on vous a expliqué que cela arrive parfois.
J'en suis navré, mère supérieure. Odrade se tourna vers la carte. Elle montrait une longue langue de désert avançant vers le nord,
ainsi qu'un éventail important de terres arides au sud-ouest du secteur central, où Shiana avait établi son poste d'observation. Au bout d'un moment, la mère supérieure reporta son attention sur Stregi, qui l'observait avec un intérêt nouveau, troublé par ses pensées sur la face obscure du mélange. Le caractère unique de l'épice est trop peu souligné à notre époque, déclara-t-elle. Toutes les drogues que les humains ont essayées dans le passé avaient un point commun. Toutes, sauf l'épice. Elles raccourcissaient la vie et dispensaient la douleur. C'est ce qui nous a été enseigné, mère supérieure. Mais on ne vous a probablement pas appris qu'un fait de gouvernement pouvait être faussé par le trop grand cas que nous faisons des honorés matriarches. Il y a une avidité d'énergie dans tous les systèmes de gouvernement, oui, même le nôtre, qui peut nous précipiter droit dans un piège. Si vous demeurez attaché à mon service, vous ressentirez cela au plus profond de votre être, parce que vous me verrez souffrir chaque matin. Laissez-vous imprégner par cette idée, par la proximité de ce piège mortel. Ne devenez pas de simples pourvoyeux insensibles, prisonnières d'un engrenage qui déplace les vies avec une insouciance de mort, comme font les honorés matriarches. Et souvenez-vous bien, certaines drogues tolérables peuvent être taxées pour payer des salaires ou créer des emplois à l'intention de fonctionnaires insensibles. Stregi était perplexe. Mais le mélange prolonge nos vies, améliore notre santé et aiguise nos appétits dans le domaine de... Elle s'interrompit en voyant l'expression sévère d'Odrad. Tout droit issu du manuel de l'acolyte. Il y a aussi l'autre face, Stregi. Et vous la voyez en moi. Le manuel de l'acolyte ne ment pas, mais le mélange est une drogue, et nous en sommes toutes dépendantes. Je sais qu'il n'a pas que des effets agréables chez tout le monde, mère supérieure, mais vous disiez que les honorés matriarches ne l'utilisent pas. Le produit de substitution qu'elles emploient remplace le mélange avec peu d'avantages, excepté celui d'éviter les souffrances et la mort dues au retrait. Mais il occasionne une dépendance parallèle. Et la prisonnière ? Murbella en prenait, mais maintenant elle prend du mélange. Les deux substances sont interchangeables. Intéressant, n'est-ce pas ? Je suppose que cela nous permettra d'en savoir plus sur elle. Mais j'ai remarqué, mère supérieure, que vous ne les appelez jamais catins. Comme font toutes les acolytes ? Oh, Stregi. Beyonda a exercé sur vous une mauvaise influence. Je sais reconnaître ce genre de pression. Et comme Stregi faisait mine de protester, la mère supérieure ajouta « Les acolytes ressentent très bien la menace. » Elle se tourne vers le chapitre où elle voit une forteresse pour laisser passer la longue nuit des catins. C'est à peu près cela, mère supérieure. Elle avait l'air extrêmement hésitant. Stregi, cette planète où nous sommes n'est qu'un refuge temporaire comme les autres. Aujourd'hui, nous allons descendre vers le sud pour mieux vous en persuader. Allez trouver Tamalan, je vous prie, et demandez-lui de prendre les dispositions prévues pour notre visite à Shiana. N'en parlez à personne d'autre. J'obéirai, mère supérieure. Vous avez voulu dire que je vous accompagnerai? Je veux que vous soyez à mes côtés. Dites à celle que vous êtes en train de former qu'elle est dorénavant seule responsable de la carte. Tandis que Stregi sortait, les pensées d'Odrad se portèrent sur Shiana et Idaho. Elle cherche à communiquer avec lui et réciproquement. L'étude des enregistrements des Oikom montrait qu'il leur était déjà arrivé d'échanger des signes de main en prenant soin de cacher de leur corps la plupart de ses mouvements. Cela évoquait les anciens langages de guerre des Atreides. Odrad reconnaissait certains signes, mais pas assez pour déterminer le contenu du message. Beyonda voulait exiger des explications de Shiana. Des secrets entre ces deux-là? Odrad était plus prudente. Laissons évoluer un peu la situation. Il en sortira peut-être quelque chose d'intéressant. Que cherche donc Shiana? Tout ce que Duncan avait en tête pouvait concerner Teg. Susciter la douleur nécessaire au rétablissement des souvenirs de l'ancien Bachar était une tâche qui prenait Duncan à rebrousse-poil. Odrad l'avait noté quand elle l'avait interrompu la veille à sa console. « Vous venez tard, Dar ?» Sans même lever les yeux du mystérieux travail auquel il était en train de se livrer. « Tard ? La soirée vient à peine de commencer ?» Depuis plusieurs années, il lui arrivait fréquemment de l'appeler « Dar ». une manière de la défier pour lui rappeler que cette existence en vase clos lui pesait. Cela irritait surtout Beyonda, qui pestait contre ses fichues familiarités. Naturellement, il appelait Beyonda « Bey ». Duncan avait toujours eu la langue bien acérée. Évoquant ses réminiscences, Odrad s'immobilisa quelques instants avant d'entrer dans son bureau. Duncan avait frappé du poing sa console. « Il doit y avoir une autre issue pour Teg. » « Une autre issue ? Qu'a-t-il donc en tête ?» Des mouvements dans le couloir après son bureau la tirèrent de ses réflexions. Stregi revenait de chez Tamalan. Elle disparut dans la salle de veille des acolytes. « Pour transmettre mes ordres à sa remplaçante chargée de la carte. » Une pile de dossiers en provenance des archives attendait sur le bureau d'Odrad. Beyonda. Elle contempla la pile d'un œil morne. Elle avait beau déléguer ses pouvoirs, il y avait toujours ce résidu organisé pour lequel ses conseillères affirmaient que seule la mère supérieure était habilitée à trancher. La majorité de ces nouveaux dossiers consistait en demandes de suggestions et d'analyses de la part de Beyonda. Odrad enfonça une touche de sa console. « Bey ?» La voix d'un employé des archives répondit aussitôt. « Oui, mère supérieure. Trouvez-moi Bey et envoyez-la-moi ici aussi vite que ses grosses cuisses peuvent la porter. » Il fallut un peu moins d'une minute. Beyonda se tenait devant son bureau en baissant la tête comme une acolyte en faute. Tout le monde au chapitre connaissait le ton que la mère supérieure venait d'employer. Odrad toucha la pile de dossiers sur le bureau et retira vivement sa main comme si elle venait de recevoir une décharge électrique.
« Par Shaitan, qu'est-ce que c'est que tout ça ?»«
Nous les avons jugés importants. »«
Et vous croyez qu'il faut que je prenne connaissance de tout et de n'importe quoi ?» Où sont les annotations? C'est de la négligence, Bey. Je ne suis pas stupide et vous non plus. Mais en face de ça...
Je délègue les tâches autant que...
Délégué? Vous appelez ça délégué? Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il faut que j'examine et qu'est-ce que je peux déléguer? Pas une seule indication.
Je veillerai à corriger cela immédiatement.
Vous auriez intérêt, Bey. Parce que Tam et moi, nous partons aujourd'hui vers le sud en tournée d'inspection surprise. Nous rendrons visite à Shiana. Et pendant mon absence, c'est vous, Bey, qui occuperez mon fauteuil. Nous allons voir comment vous appréciez ce déluge quotidien.
On pourra vous contacter?
J'aurai un microcom et une ligne optique en permanence.
Beyonda respira.
Je vous suggère, Bey, poursuivit la mère supérieure, de retourner aux archives nommer quelqu'un responsable de tout cela. Ma parole. Vous commencez à vous comporter comme tous les bureaucrates. Couvrir vos précieuses fesses avant tout.
Le navire tangue quand il y a des vagues, Dar.
Bey en train de faire de l'humour. Tout n'était donc pas encore perdu. Odrad passa la main au-dessus de son projecteur et l'image de Tamalan dans la salle des transports apparut.
Tam ?
Oui ?
Fit-elle sans se détourner du tableau de répartition des tâches qu'elle consultait.
Dans combien de temps pourrons-nous partir ?
Environ 2 heures.
Appelez-moi quand tout sera prêt. Ah oui, Stregi part avec nous. Prévoyez de la place.
Elle coupa la projection sans laisser à Tamalan le temps de répondre. Il y avait beaucoup de choses à faire pour Odrad. Tam et Bey n'étaient pas les seuls sujets de préoccupation d'une mère supérieure.
Il nous reste 16 planètes, en comptant Budzel, particulièrement menacée en ce moment. 16 seulement.
Mais elle écarta cette pensée. Pas de temps pour ça.
Murbella, faut-il que je la fasse venir pour... Non, cela peut attendre.
Le nouveau conseil des rectrices? Laissons à Bey le soin de s'en occuper.
L'éparpillement de la communauté?
Le drainage des effectifs vers la nouvelle dispersion avait forcé celles qui restaient à consolider leur rang. Ne pas se laisser gagner par le désert. C'était une pensée déprimante et elle ne savait pas si elle pourrait y faire face aujourd'hui.
Je suis toujours nerveuse avant de partir en voyage.
Brusquement, Odrad décida de quitter son bureau et d'aller au hasard des couloirs voir comment celles dont elle avait la charge accomplissaient leurs tâches. Elle s'arrêta à l'entrée de chaque salle, s'intéressant à ce qu'elle lisait ou aux interminables exercices pranabindu qu'elle pratiquait.
Qu'étudiez-vous là ?
Demanda-t-elle à une jeune acolyte de seconde année penchée sur une projection dans une salle où régnait la pénombre.
Le journal de Tolstoï, mère supérieure.
Cet air malin dans le regard de l'acolyte disait, Vous avez peut-être directement accès à ces paroles grâce à la mémoire seconde ?
La question était là, sur le bout de sa langue.
Elle lui lançait tout ce genre de petits défis quand elle se trouvait seule en face d'elle.
« Tolstoï est un patronyme, » répondit-elle d'un ton sec. « Mais puisque vous citez un journal, je présume que c'est du comte Lev Nikolaïevitch que vous voulez parler. »
« Oui, mère supérieure. »
Timide et consciente du reproche contenu dans sa voix. Radoucie, Audrade lui lança une citation.
« Je ne suis pas un fleuve, je suis un filet. »
C'est quand il se trouvait à Yasnaya Polyana, âgé seulement de 12 ans, qu'il a prononcé ces mots. Vous ne les trouverez pas dans son journal, mais ce sont probablement les plus significatifs qui soient sortis de ses lèvres. Elle tourna le dos à l'acolyte sans lui laisser le temps de répondre. Toujours en train d'enseigner quelque chose. Elle descendit alors inspecter les cuisines, passant le doigt le long du bord interne des marmites, pour voir s'il y avait de la graisse, notant la nervosité avec laquelle même le maître coq instructeur observait son avance. La cuisine était pleine des bonnes odeurs de la préparation du repas de midi. L'activité bruyante qui y régnait avait quelque chose de réjouissant, mais le brouhaha des interpellations habituelles avait cessé dès qu'elle était entrée. Elle contourna la longue table où s'affairaient les cuisiniers pour gagner l'estrade où se tenait l'instructeur. C'était un homme de corpulence bovine, aux pommettes saillantes, au visage aussi rouge que les viandes qu'il préparait. Audrade ne doutait pas qu'il fût l'un des grands cuisiniers de l'histoire. Son nom lui allait comme un gant, Placido Salat. Il s'était assuré une place de choix dans les pensées d'Audrade pour plusieurs raisons, l'une d'elles étant qu'il avait assuré la formation de son maître queue personnel. Les visiteurs de marque, avant l'époque des honorés matriarches, avaient toujours eu droit à la visite des cuisines et à la dégustation de ses spécialités.
« Puis-je vous présenter notre chef cuisinier, Placido Salat ?»
Son bœuf Placido, il tenait à la minuscule, faisait l'admiration et l'envie de beaucoup. Il le servait saignant, accompagné d'une sauce aux herbes et à la moutarde épicée qui n'altérait pas le goût de la viande. Audrade, pour sa part, jugeait ce plat trop exotique, mais elle n'avait jamais formulé sa critique à haute voix. Quand elle fut sûre d'avoir toute l'attention de Salat, le temps de rectifier une sauce, Audrade déclara « J'ai une folle envie de quelque chose de spécial, Placido ». Il reconnut aussitôt son entrée en matière. C'était toujours ainsi qu'elle réclamait ce qui constituait son péché mignon.
« Peut-être un ragoût d'huître ?» suggéra-t-il en souriant.
« C'est comme un balai, » songeait Audrade. Il savait aussi bien qu'elle ce qu'elle voulait.
« Magnifique !» s'écria-t-elle, jouant le jeu rituel. « Mais il faudra faire bien attention, Placido. Les huîtres ne doivent pas être trop cuites. Une pincée de notre céleri en poudre dans le bouillon. »
« Avec un peu de paprika ?»«
C'est ce que je préfère. Ayez la main légère en ce qui concerne le mélange. Un soupçon ? Pas plus. »«
Naturellement, mère supérieure. »
Il roulait les yeux d'horreur à la pensée de mettre trop de mélange. Le goût de l'épice est si aisément dominant.
« Faites cuire les huîtres dans du jus de clams, Placido. Je préfère que vous suiviez leur cuisson en personne, en remuant doucement jusqu'à ce que leur bord commence à se rétracter. »
« Pas une seconde de plus, mère supérieure. »
« Faites chauffer à part un peu de lait bien crémeux, mais sans bouillir. »
Placido écarquillait les yeux à la pensée qu'elle put le soupçonner de vouloir faire bouillir le lait de son ragoût d'huître.
« Une noix de beurre au fond de la soupière, » poursuivit Audrade. « Vous versez lentement le reste par-dessus. »«
Pas de xérès ?»«
Je suis vraiment heureuse que vous vous occupiez personnellement de la confection de mon plat favori, Placido. J'avais oublié le xérès. »
La mère supérieure n'oubliait jamais rien, et tout si s'il savait, mais c'était l'une des figures rituelles du balai. « Un verre à liqueur de xérès dans le jus de cuisson, » dit Placido.
« Préalablement réchauffé pour faire partir l'alcool. »
« Naturellement. Mais il ne faut pas détruire les saveurs.
Aimeriez-vous des croûtons ou des biscuits salés comme accompagnement ?»«
Des croûtons, je vous prie. »
Assise à une table sous une voûte basse, Audrade dévora coup sur coup 2 bols de ragoût d'huître en pensant à l'enfant de la mère qui adorait ce plat. C'était papa qui le lui avait fait connaître, dès qu'elle avait eu l'âge de porter seule une cuillère à sa bouche. Il l'avait fait lui-même, c'était sa spécialité. Et Audrade avait transmis la recette à Salat. Elle complimenta ce dernier sur le vin.
« J'ai apprécié votre choix du chablis. »
Rien ne vaut un bon chablis bien sec au fumet de terroir, mère supérieure.
C'est l'un de nos meilleurs crus. Il complète admirablement la saveur de l'huître. Tamalane la rejoignit sous la voûte. Les autres savaient toujours où trouver la mère supérieure quand elles avaient besoin d'elle.
« Nous sommes prêtes !»
Était-ce une moue de mécontentement qui se dessinait sur le visage de Tam ?«
Où ferons-nous étape cette nuit ?» demanda Odrad.
« À Eldio !»
La mère supérieure sourit. Elle adorait Eldio.
« Tam veut me faire plaisir parce qu'elle me trouve d'humeur critique. Peut-être aurons-nous là l'occasion d'une petite diversion. »
Tout en suivant Tamalane jusqu'aux aires de transport, Odrad trouvait typique cette préférence de la vieille sœur pour les déplacements par tube. Les transports de surface l'ennuyaient. « Qui a envie de perdre ainsi son temps à mon âge ?» disait-elle toujours. Odrad détestait les voyages par tube. On se sentait prisonnière et tellement impuissante. Elle préférait la voie des airs ou les véhicules de surface et n'avait recours aux tubes que dans les véritables cas d'urgence. Elle n'hésitait nullement, par contre, à se servir du réseau pour expédier des lettres ou des messages. Du moment qu'ils arrivent à destination. C'était le genre de pensée qui lui donnait inévitablement conscience du système qui s'ajustait étroitement à ses mouvements partout où elle allait. Quelque part au centre de tout, il y avait toujours un centre de tout, un dispositif automatique acheminait les communications et faisait en sorte, en principe, que les missives importantes parviennent bien à leur adresse. Quand l'acheminement privé, tout le monde disait AP, n'était pas indispensable, on pouvait faire appel au STAT ou au VISIO par l'intermédiaire des lignes optiques et des émissions codées. Pour les communications extraplanétaires, c'était une autre affaire, particulièrement s'étant troublée. Le moyen le plus sûr était de dépêcher une révérende mère porteuse d'un message mémorisé ou d'un implant d'istrance. Il était alors indispensable que la messagère soit saturée de chéré, à des doses de plus en plus élevées ces derniers temps. Les sondes T pouvaient lire même l'esprit d'un mort s'il n'était pas efficacement protégé par le chéré. Tous les messages à destination de l'extérieur étaient dûment codés. Cependant, l'ennemi pouvait toujours percer la formule unique utilisée cette fois-là. Dès qu'on sortait du chapitre, le risque était élevé. C'était peut-être la raison pour laquelle le rabbi ne donnait pas signe de vie. Mais pourquoi ces pensées me viennent-elles en ce moment ?
Toujours pas de nouvelles de Dortoujla ?
Demanda-t-elle tandis que Tamalane s'apprêtait à pénétrer dans l'anneau d'acheminement où les autres membres de leur groupe attendaient. Il y en avait beaucoup. Pourquoi tant ?
Odrad aperçut Stretchy devant elle à l'autre bout de la plateforme, en pleine conversation avec une acolyte des communications. Il y avait dans le groupe au moins 6 autres spécialistes des communications. Tamalane s'était vivement tournée pour lui répondre d'une voix nettement excédée.
« Dortoujla ? Tout le monde vous a dit que vous serez informé à l'instant même où il y aura du nouveau. »«
Je ne faisais que demander, Tam, rien d'autre. »
Baissant la tête, Odrad suivit Tamalane à l'intérieur de l'anneau.
Je devrais installer un moniteur dans ma tête pour surveiller tout ce qui s'y passe.
Les idées qui surgissaient ainsi à l'improviste avaient toujours une bonne raison derrière elles. C'était une caractéristique du Bene Gesserit, comme Beyonda aimait à le lui rappeler. Odrad fut surprise en cet instant de s'apercevoir qu'elle en avait plus cassé des manies du Bene Gesserit. Que Bey s'inquiète de ces choses-là pour changer. Le moment était venu de se laisser librement flotter, de danser comme un feu follet au gré des courants qui l'entouraient. Les courants, c'était une chose que l'enfant de la mer connaissait bien.